Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur la côte de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côte de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la côte de la semaine, nous recevons dans ce studio Madame Faïda Mwangilwa, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre. Bonjour Madame Faïda Mwangilwa.
Bonjour Monsieur Guimaté.
En ligne, Cyril Kileba, il est journaliste et il est éditeur du journal des postes paraissant à Kinshasa. Bonjour Monsieur Cyril Kileba.
Bonjour Guimaté et bonjour à tous les auditeurs de Radio.
Et aussi en ligne depuis Bruxelles, la capitale de la Belgique, Josaphat Moussamba, il est doctorant à l'université de Gand. En Belgique, il est chercheur congolais basé au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Bonjour Josaphat Moussamba.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les autres participants et aux débatteurs.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Cyril Kileba, il est journaliste et il est éditeur du journal des postes paraissant à Kinshasa. Madame Faïda Mwangilwa, il est membre de la société civile et elle est experte en genre. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Josaphat Moussamba, il est doctorant à l'université de Gand en Belgique et il est chercheur congolais basé au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Au menu de cette émission, prolongation pour 2 semaines supplémentaires de la trêve humanitaire au Nord Kivu, politique contre insurrectionnelle et mobilisation armée dans l'Est et Ouest de la RDC, cas des provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, ainsi que dans les Maïndombe, et enfin, crise à l'UDPS, un enjeu futur entre épicuriens et philosophes du pouvoir. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de l'affaire IGF Alinguété. En effet, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguété, et 5 de ses collaborateurs sont poursuivis par le parquet général près la Cour des comptes pour s'être fait payer indûment $750,000 par la GECAMINE. Selon nos sources judiciaires, la mise en cause de l'IGF est relative à la signature d'un contrat de consultance avec la GECAMINE. Les inspecteurs des finances étaient en mission à la GECAMINE comme consultants à la demande de la société pour notamment les renforcements des capacités des agents de la GECAMINE. Celle-ci, en tant que justiciable, a payé les inspecteurs des finances au nom de l'inspecteur chef des services, alors qu'ils enquêtaient en même temps sur la dite société et dont la durée des 90 jours n'était pas encore écoulée, d'après nos sources. Cyril Kileba, et comment vous réagissez à cette affaire qui pousse, n'est-ce pas, certains observateurs à parler des contrôleurs contrôlés?
Oui, je crois que cette affaire des inspecteurs de l'IGF qui seront payés à la GECAMINE, ça alimente la chronique à la fois des médias en ligne, des médias sociaux et même de la presse papier. Alors, je voudrais quand même que au départ, nous, que l'on soit clair, que l'on fixe un peu les idées. Vous avez dit dans votre introduction qu'ils se sont fait payer indûment. Cela veut tout dire. S'ils se sont fait payer indûment, ben, il n'y a rien à redire, c'est qu'il y a faute. Mais maintenant, le problème consiste justement à savoir si ils se sont fait payer et si se sont fait payer indûment. Je crois que c'est plus qu'une nuance. Ils se sont fait payer. Maintenant, le problème doit consister à établir est-ce que les paiements étaient indus. Je crois que c'est là que réside la question. Bon, qui devra trancher que les paiements étaient dus ou n'étaient pas dus? La Cour des comptes dit que c'est elle qui doit vérifier. Il y a déjà au départ une querelle, je risque de dire, de compétences, ce qui est tout à fait normal si tout le monde considère que nous sommes dans un état de droit. Et donc, celui qui a compétence peut faire ce qu'il doit faire. Mais si l'IGF estime au départ que la Cour des comptes n'a même pas compétence de fourrer son nez dans ce qu'elle fait, et bon, alors, donc vous voyez qu'on est dans un imbroglio à ne point s'en sortir. Mais il reste vrai que l'IGF, un peu comme un flic financier de l'État, se doit d'être exemplaire. Et à ceux qui lui opposent la théorie de clean hands, c'est-à-dire des mains propres, donc ne peut faire de reproches que celui qui a les mains propres. Alors, là, ça devient assez compliqué. La deuxième dimension, bon, est-ce que ce n'est pas aussi facile aujourd'hui de vouloir se faire un peu trop de publicité en tapant sur l'IGF? Est-ce que du côté de la Cour des comptes, il n'y a pas des gens qui essaient de faire aussi les petits charlots pour se faire connaître? Parce que la réputation de l'IGF aujourd'hui est telle que celui qui s'attaque à l'IGF s'assure un peu de baise, non? Donc il y a tout cela qu'il faut essayer de démêler pour arriver à comprendre quel est le problème exact. Est-ce que dans les actes qui ont été posés, il y a eu des fautes? Qui sanctionne ces fautes-là et de quelle manière?
Merci, ouais. Madame Faïda Mwangiloa. Que vous inspirent ces poursuites qui sont initiées par le parquet général et près la Cour des comptes contre l'inspecteur général de l'IGF, chef de service, et 5 de ses collaborateurs?
Merci beaucoup. C'est quand même étonnant. Lorsqu'on voit des inspecteurs qui sont partis à mission de service pour les comptes de l'État, donc de l'inspection générale des finances, en même temps se faire payer pour des consultances privées, ça étonne. Mais ce qui est plus important ici, c'est de clarifier. Nous avons accepté d'évoluer dans un état de droit et à ce terme-là, en tout cas, il y a la primauté de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. S'il y a des fautes, en tout cas, le parquet doit prouver en quoi l'IGF est poursuivi et pour quelles raisons. Et moi, je crois qu'il faut clarifier parce que jusque-là, en tout cas, moi, personnellement, j'appréciais le travail de l'IGF et avec tout ce que nous connaissons comme corruption qui est comme un cancer dans le vécu de beaucoup de dirigeants congolais, il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est l'institution qui doit mettre fin à la corruption. Donc, l'essentiel, franchement, c'est de pousser avec les enquêtes et de nous dire finalement c'est quoi au juste, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu détournement, est-ce qu'il y a eu paiement double, qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout simplement connaître la vérité, c'est aussi pour la crédibilité de l'institution.
Merci. Josaphat Moussamba, cette décision du parquet général près la Cour des comptes est liée, n'est-ce pas, nous l'avons dit, à cette consultance que l'inspecteur général de l'IGF aurait conclue avec le PDG, n'est-ce pas, les DG de la GECAMINE, alors qu'il était supposé, n'est-ce pas, contrôler cette entreprise. À votre avis, quelles leçons peut-on tirer de cette affaire?
Merci beaucoup. Comme les autres collègues l'ont dit, moi je voudrais justement aborder dans les sens qu'est-ce qu'on tire de cette affaire et puis les positions de membres de la société civile que j'ai vues, je pense, hier ou avant-hier. Et donc, de prime abord, je vois que c'est vraiment outrepasser les mesures ou bien c'est de la cupidité. La cupidité dans les sens que M. l'IGF, et déjà il travaille à la présidence, il a beaucoup d'appui et beaucoup de pouvoir, et prendre une consultance, je ne sais pas si les documents ou les décrets qui organisent sa fonction lui donnent cette compétence à la fois comme auditeur et consulter, se faire consulter par l'audité. Et ça, c'est problématique. Même pour nous faisons les évaluations, et c'est difficile, comme évaluateur indépendant, lorsqu'on est recruté pour évaluer de manière indépendante une structure, cette même structure ne peut pas vous recruter pour aussi renforcer ses compétences. L'idéal aurait été de finaliser l'audition ou l'évaluation, et après, les recommandations, la structure pourrait lui demander, est-ce que vous pouvez nous aider à alors mettre en place les recommandations ou bien réorganiser, former nos gens. Mais pendant que, selon ce que vous avez dit, ils sont encore sur l'évaluation, on les recrute, c'est la cupidité, et je pense que la Cour des comptes, le parquet général de la Cour des comptes, avait toutes les possibilités. Maintenant, il y a tout un grand débat, Guy Maté, c'est ce que je vis au niveau de la société civile. Il y a ce qu'on appelle la coalition Congo n'est pas à vendre, et une autre coalition des deux ONG, l'ONG Likoko de Ernest Mpararo, l'OGDEP, qui estime que voilà, le parquet n'a pas le pouvoir, et parce que c'est la structure IGF, y est attachée à la présidence, qui n'a pas le pouvoir et qu'il n'y avait pas de problème. Mais pour d'autres aussi, la coalition Le Congo n'est pas à vendre, qui estime que on devait aller jusqu'au bout pour, si vous voulez, remettre l'IGF à sa place, parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. De toute façon, moi je suis d'accord avec eux qui pensent que on est IGF, c'est une institution de l'État. Ce n'est pas Gila Ningeti. Et n'est pas au-dessus de la loi, et si elle dérape, et alors on lui remet aussi à sa place. Mais le débat au niveau de la société civile, il est très pour moi houlé, et ça questionne, si vous voulez, des positions des acteurs. Mais de toute façon, vous savez, je ne vais pas généraliser les choses, c'est faire payer 150 000 dollars pour une consultance, ça tique aussi, hein. Ça tique aussi, Guimaté. Si la GECAMIN possède cet argent, oui, et les termes de référence, c'est les structures de l'État, c'est une entreprise qui a des dimensions aussi privatistes, elle a les droits aussi, elle peut les consulter. Mais le seul problème, c'est que au moment où elle mène des évaluations, et au moment où elle est en train d'auditer cette entreprise, elle sollicite une consultance, ça pose problème, c'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. Même si l'IGF peut se dire, je suis en dehors, c'est la présidence, mais il y a un conflit d'intérêts. On ne peut pas être en train d'auditer une structure et la conseiller au même moment, ça ne s'explique pas.
Merci, on prend une petite pause avec Tolérance Zéro des Roga Roga et on revient juste après.
Maningina loba, oye koya heya.
Biubibe, na nubale mbibe tiyoto koi. Biubibe, bona e folo, toti kamo konti alobi.
Soki ozala kamoto alokuta na kombo ya baninga na rapport amabe epai ya chefo na baninga bakoya ki onti valeur na corruption gabeji a banir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix des sans voix oye lobami na te na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures, même construit les villas aux septième femmes. Tout cela, avec l'argent que tu as volé à l'État, aux affaires, mon Yibi. Avec les contrôleurs d'État très, très, très corrompus. La République est devenue bananière, Biubipé et Léki. Cette fois-ci, on conduit à l'objet rupturé. Ouvre bien tes oreilles, rupturé et total. Mbongo ya fonti ya pétrole, poti kako détourné. Mbongo ya nzete, paye kenda, toye vite. Mbongo ya impôts na douane, pour verser na trésor. Mbongo la mérite au sein du décentralisation totale. Trafic d'influence, et comme maître mon abino. Bonne la cabato. Bokana kabato, bokala bato mabe, wonga na za famille à chef, wonga na za mwana mokondi, zéro, vraiment zéro. Mais ça n'a concours été, toi examen pour na kokoma mwana mokondi na Congo. Yesa kaka grâce, hexe de zèle, yango mabe na Congo mokondi à lobby. Rupture est totale.
Biubibe, na nouvelle budget, yato koi, biubibe, bona et follow.
na internet eza mabe ba stock inutile na ba réseaux sociaux okokoma liboma le ballon séjour sur le terrain et non dans les gradins.
C'était Tolérance Zéro avec Roga Roga, cet artiste musicien, compositeur, chanteur et guitariste congolais qui, à travers ses chansons, dénonce certaines antivaleurs. On revient à la tête cette semaine. Les États-Unis d'Amérique ont prolongé de 15 jours la trêve humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le gouvernement américain dans un communiqué signé mercredi 17 juillet. Cette trêve est une nouvelle opportunité pour la paix, précise Washington dans ses communiqués. La première trêve, décrétée en début du mois de juillet, a pris fin ce vendredi 19 juillet à minuit. Au regard de cette nouvelle prolongation, elle prendra donc fin le 3 août prochain, alors que sur le terrain, cette trêve n'est pas respectée. Madame Faïda Mwangula, vous êtes membre de la société civile, vous êtes experte en genre. Vous souhaitez, n'est-ce pas, nous parler de cette trêve humanitaire qui vient d'être prolongée de 2 semaines. On vous écoute.
Effectivement, la trêve humanitaire a été saluée particulièrement par les déplacés, parce que il faut avoir été déplacé pour comprendre la vie d'un déplacé. Moi, j'ai déjà été déplacé juste pendant 2 semaines à Kirochi en 96 et j'ai compris combien il était difficile de vivre dans un camp des déplacés. 2 semaines seulement, moins de 15 jours. Mais maintenant, aujourd'hui, là, avec les affrontements, avant que la trêve humanitaire soit lancée, en tout cas, des populations étaient en train de courir de toutes parts. Je rappelle ici encore les statistiques des déplacés que nous avons. Plus de 7 millions de déplacés, la RDC. Et l'Est du pays en compte le plus. Alors, dans cette vie des déplacés, qui on voit? On voit des femmes et des enfants particulièrement, avec des petits bagages sur le dos, sous la pluie, dans le froid et tout, sous le soleil. Franchement, à un certain moment, cette trêve humanitaire a été saluée, même si, d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas été respectée sur le terrain. Mais maintenant qu'on vient de prolonger, souvent, ce qui se passe dans d'autres pays du monde, et dans d'autres crises, et lorsqu'il y a trêve, on en profite aussi pour accélérer les négociations, accélérer les pourparlers, accélérer. Et c'est là qu'on voit les médiateurs et médiatrices. En tout cas, nous, au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons mis en place une synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Et nous avons profité de ce moment de trêve humanitaire pour essayer de parler à des dirigeants impliqués par rapport à la résolution des conflits au niveau interne et au niveau externe. Et ce que nous demandons ici, c'est vraiment un message de dire, est-ce qu'il y a possibilité de respecter cette trêve humanitaire et donner à la population la possibilité de se reconstituer une petite énergie. C'est des femmes et des enfants qui n'ont pas accès à la nourriture, c'est des femmes et des enfants qui sont malades et d'autres qui sont décédés sur terrain des suites de ces conflits. Nous espérons que cette fois-ci, les gens vont respecter la trêve humanitaire demandée, mais aussi au niveau, en tout cas, de pourparler, qu'on avance les choses. Il y a l'accord de Luanda qui engage la RDC et le Rwanda. En matière de résolution des conflits, quelquefois, c'est aussi la bonne foi. Nous voulons voir la bonne foi de notre chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, mais voir aussi l'engagement du Rwanda. Nous sommes de peuples condamnés à rester là-bas. Nous avons des frontières. Que chaque État respecte ses engagements. Comme ça, au moins, nous avons la paix. Qu'est-ce que nous allons construire pour les enfants rwandais et congolais d'ici 10 ans, 20 ans? S'ils doivent continuer à vivre dans la haine, on ne construit pas. À un certain moment, lorsqu'on est dirigeant, il faut plus voir comment résoudre les problèmes qui touchent à sa population. Et nous espérons qu'en ce moment, tout le monde, en tout cas, va se mettre en marche et voir comment demander, alors exiger l'arrêt des hostilités et la fin de la guerre.
Justement, Madame Faïda Mwangula, est-ce qu'on s'est tromperé si on affirmait qu'autant les États-Unis sont capables d'initier et d'imposer cette trêve, autant ils peuvent être en mesure de mettre fin à cette guerre et de manière durable?
Moi, je crois qu'ils sont capables. Oui, on peut tout dire, parce que lorsque les États-Unis ont lancé la trêve, ont demandé cela, ont exigé cela, quelque part par les États, quelque part, on a vu que les gens ont respecté peut-être à 70%. Donc, il y a possibilité de pousser encore une fois et de dire comment on peut trouver la paix durable dans ce pays. Je vous assure, moi, Faïda Mwangilo, en 98 jusqu'en 2000, depuis 96, nous étions encore des jeunes dans ces conflits. On pensait qu'on se battait pour la démocratie, mais très souvent pour des dirigeants. Lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, vous vivez une autre réalité. Alors comment ne pas construire sur le durable? La RDC a tout intérêt à construire sur le durable. Le Rwanda a tout intérêt à construire sur le durable. L'Ouganda, le Burundi, les pays de la région des Grands Lacs. Il y a eu beaucoup de mécanismes pour construire la paix dans la région des Grands Lacs. Malheureusement, tous ces mécanismes-là, ces initiatives de paix, n'ont pas réussi à donner la paix aux Congolais. Merci. Et Congolaises.
Merci Cyril Kileba. Vous êtes journaliste, éditeur du journal des Postes paraissant à Kinshasa. Et au-delà de l'objectif énoncé officiellement, n'est-ce pas, celui d'assurer une aide humanitaire aux déplacés, à votre avis, quel pourrait être le véritable enjeu de cette trêve humanitaire?
Bon, poser la question de l'enjeu de la trêve humanitaire, c'est revenir à poser la question même de l'enjeu de la crise. Quel est l'enjeu de la crise? Quel est l'enjeu de cette fameuse guerre qui décime des populations à l'est de notre pays? Bon, je ne sais pas, je suis peut-être un peu moins optimiste, on dirait que je suis un peu pessimiste, mais moi je ne vois pas la trêve. Hein? Je vois des populations en errance qui continuent, je vois les souffrances des populations déplacées qui s'aggravent, et je n'ai pas vu de trêve. Je me suis dit que la trêve a été demandé ou imposé par les États-Unis pour permettre à Paul Kagame de finaliser son théâtre d'élection qu'il vient de passer, de se faire réélire à 100% moins 1. C'est cela. Le seul résultat de la trêve humanitaire, c'était de montrer au monde comment Kagame, qui attaque, qui détruit à l'est de la République démocratique du Congo, comment il est populaire, donc comment il faut continuer à le soutenir, à faire ce qu'il fait à l'est du Congo. Sinon, je ne vois pas l'enjeu de la trêve. Alors, je me dis, mais l'échec de la trêve humanitaire, puisque la trêve humanitaire est un échec, n'ayons pas peur de le dire, qu'on la prolonge de 2 semaines, on prolongera l'échec de 2 semaines. Alors, je dis, l'échec de la trêve humanitaire nous donne une bonne leçon. C'est que ceux qui, au départ, ont été capables d'inciter à commencer la guerre sont incapables de l'arrêter. C'est l'échec de ceux qui, par leur multinationale, soufflent ou soutiennent ceux qui viennent faire la guerre à l'est du Congo, mais ils ne sont pas capables de mettre fin à ce qu'ils ont commencé. Mais c'est un échec pour tout le monde. Alors, si chacun se rend compte que maintenant il a échoué, les États-Unis, dont plusieurs multinationales, sont derrière la guerre, le Rwanda qui envoie des troupes, on dit que les soldats rwandais sont plus nombreux sur le terrain des opérations que les fameux M23 qui leur servent de paravent, et qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a une crise humanitaire, ils ne sont même pas capables de refréner leurs ardeurs, je dirais, génocidaires. Alors, c'est qu'il y a un problème, et ce problème-là, ne peut pas se résoudre par une seule trêve décidée depuis Washington. Non. Et à un deuxième niveau, c'est que la RDC doit être la première à tirer les conséquences de l'échec de la trêve et donner la réponse que les populations congolaises attendent de notre armée. Voilà.
Merci, merci Josaphat Moussamba. Vous êtes doctorant à l'Université de Gand en Belgique et vous êtes chercheur congolais basé au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. À votre avis, quelle pourrait être l'efficacité d'une telle trêve lorsque, à la clé, on n'a pas prévu des sanctions à l'endroit de toutes les parties qui la violeraient? C'est quoi l'efficacité d'une telle trêve quand, à la clé, il n'y a pas des sanctions prévues?
Alors, je ne veux pas parler par deux ou trois choses. La première, l'efficacité d'une trêve dans une guerre civile, ou alors ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'agression, parce que pour moi, le M23, autant que les autres groupes armés, il y a ces deux dimensions. Pour moi, c'est une guerre civile à dimension transnationale. Donc, il y a alors autant la partie agression, la partie guerre civile. Et donc, dans les types de guerres civiles, surtout les trêves humanitaires, permettent à ce que, lorsqu'il y a eu des opérations militaires, lorsqu'il y a eu des attaques, à la fois pour le groupe armé, c'est-à-dire pour le M23, appuyé aussi par des instructeurs et rwandais, ils ont occupé déjà Kanyabayonga, dans le sud de Lubero, et ils ont occupé alors une grande commune, la commune phare, Kirumba, où j'ai beaucoup travaillé là-bas, dans le cadre de mes recherches doctorales, dans le sud de Lubero, Kirumba et Kanyabayonga, et surtout les environs de ces axes-là, comme Luofu, Miriki, est monté pour aller vers le territoire de Lubero. Donc, lorsqu'il y a des opérations entre les FRDC et les troupes de M23 appuyées par les RDF, comme le groupe d'experts a démontré, il y a une sorte de crise humanitaire et alors le déplacement forcé, déplacement interne forcé, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et les populations, comme Madame Faïda a dit, ils vont fuir certains dans la forêt, certains dans les endroits où ils n'ont pas accès à la nourriture, deviennent vulnérables. Et il y a aussi la vulnérabilité en termes de manque de la nourriture, en termes de... Alors, qu'est-ce que les Nations Unies, la force qu'ils ont, et c'est à ce niveau que nous sommes limités, parce que c'est les questions diplomatiques, les États-Unis ont annoncé cela pour dire à la fois à ceux qui apportent appui au M23, que ce soit moral ou matériel, M23 et même, y compris ceux qui sont en train de défendre le territoire national. Faisons une trêve, regardons comment ceux qui ont fui, s'ils peuvent se retrouver dans des zones où les humanitaires vont, on va créer des couloirs humanitaires pour qu'on apporte appui à cela. C'est sûr qu'il y en a qui ont été faits, mais comme l'autre collègue a dit, les affrontements continuent. Et ils continuent pour la simple raison que il est évident, selon des sources que nous avons aussi, que ce soit autour des grands axes que contrôle le M23, que ce soit à Kirumba ou dans Kanyabayonga, il y a certains villages, les environs, pour aller à Kiambulis, il y a des zones où le M23 ne contrôle pas. Et c'est des zones, que ce soit aussi à Rutshuru, des miliciens, les Wazalendo, les VDP, ils contrôlent aussi ces zones-là. Et du coup, si vous étudiez les guerres civiles ou les groupes armés, vous allez voir que, même s'il y a trêve, il peut y avoir des clashs entre ces groupes-là. C'est pour ça que Madame Faïda et les collègues ont dit, il y a eu des clashs qui ont continué parce qu'ils ne contrôlent pas l'entièreté de ces territoires. Et alors, il y a toujours des zones qui échappent à leur contrôle et où des petites incursions d'autres groupes, on va dire, moi je parle de groupes armés, mais alors ces petites incursions ou alors les tensions qu'il faut avec les positions contrôlées par les M23. Ça c'est une chose. L'efficacité pour moi, c'est seulement permettre à ces populations, à ces déplacés internes forcés par les affrontements militaires, de soit à repartir dans des zones où ils seront pris en charge ou bien ils vont aller dans les familles d'accueil, dans les zones qui sont encore sécurisées et où il n'y a pas d'affrontement, ou alors c'est attendre que des humanitaires accèdent à ces populations, leur donnent des appuis nécessaires. Ça, c'est une des choses. Deuxièmement, c'est, je pense plutôt que la trêve a permis aussi des parts et d'autres de se remobiliser sur le plan tactique, sur le plan de la stratégie militaire, que ce soit de la rébellion, que ce soit aussi de l'État, ça permet aussi de regarder les positions qu'on a perdues et lesquelles est-ce qu'on peut encore engager des affrontements pour le reprendre. Ça, c'est vraiment sur le plan tactique au niveau armement. Et pour finaliser, je pense que je ne suis pas très d'accord avec le collègue journaliste qui parle de les multinationales qui sont dans les guerres. Par contre, aujourd'hui, qui sont les multinationales qui sont dans l'est du Congo. En dehors de ce qui se fait à Bissie, Rubaya, il n'y a pas de multinationales. Et ce sont de les M23 et les autres rébellions qui contrôlent, qui sont ces multinationales qui sont dans la rébellion. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir les perspectives très locales, parce qu'il y a toujours des conflits, il y a des conflits entre les détenteurs de titres miniers et fonciers.
Merci, merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, Fally Ipupa poursuit sa tournée européenne pour une série de concerts. On va donc écouter Sopeka, une des chansons contenues dans son premier album Droit Chemin. On revient juste après.
Hey, hey, c'est monsieur Fally Ipupa, et moi-même l'homme qu'on appelle Benji. Hey, on veut voir tout le monde sur la piste de danse, toutes les jeunes filles approchées.
Ouais.
Hey, c'est comme ça qu'on aime.
Ouais,
hey,
pas Fally. Choix. Ouais, Benji.
Ouais, je sais, c'est dur.
Ah ouais.
Hey, mais c'est comme ça qu'on les aime.
Pas
hey,
choix,
ne
changez
pas. Hey, tout le monde doit marcher sur le droit chemin.
Là, très bien dit, mon gars.
Hey. Tout le monde en pays.
Allez, je veux voir toutes les nanas bouger leur matos.
Allez.
Sobela ngai pesa na kabela ngai kopi mela ngai te kopi mela ngai te paolo kopi mela ngai te wo kopi mela ngai te boli mo komota libo masomba ke la mate meka chata na kate kupata ya madofolo latisa na taboli wa madofolo ate komoni zandoto meka sina kuta na kaka na moromo.
C'est pour toi, Judith, Maï, la Gabonaise et Marcel.
Colo, oh, 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 oh. Wenza pokwa seleri pezalaka sosa tonga kwena mama nana tonga na motema na yo
bebe ya moi
satana sukele kekizami makasi mesi ya kotola mokili oyo ngale na beglisi bandimi yo zotu bakoma yaye
mesi wanzambe zalaki nshu sasa bomwana po aza ekelamu na ye yo poza mokwati nanga. Yango na sala kenterim yanza metango ya poeme. Tate bolingo yo memi yango na fond. Bolingo ekomi ote bate pesangi constitution ye. Sopake promenade yo teki ba makine nyonso yo lidi. Ah, ah, Paris Morgan.
Yo, 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 yo.
Na bumisi tonga tungele kinga na maye. Wezali komi yeba esika yeseje loye mwanzete mopepe lelo nzete boyikoningana seke mopepa yawa te
Mike Motoni
mobange tosili mino jama senga kaliwa e moto abalaka senga tete moke mokina
komengo na yese liberte ete komengo na ngai bolingo na yo.
Mobanga ta siri makasi jama senga kaliwa e. Moto anzala senga kate imeble mama haya o.
Bome mwana yese lipa na mba.
Maipe bome mwana ngaboli mwana yo. Santwa ke inananga. Santwa ndo ya mama. Santwa bebe na mana kukukate.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet des poursuites judiciaires initiées contre l'inspecteur chef des services Jules Alinguetier. Nous avons également analysé la prolongation pour 2 semaines supplémentaires de la trêve humanitaire au Nord-Kivu. Participe à cette émission, Cyril Kileba, il est journaliste et éditeur du journal des postes paraissant à Kinshasa. Madame Faïda Mwangula, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre. Et en ligne depuis Bruxelles, la capitale de la Belgique, Josaphat Moussamba, il est doctorant à l'université de Gand en Belgique. Et il est chercheur congolais basé au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Au moins 10 personnes ont été tuées mercredi 17 juillet dans une double attaque attribuée aux rebelles des ZDF à Kazaro et Mouliso, deux villages du secteur de Benimbao au nord Kivu. Des dégâts matériels ont été également enregistrés au cours de ces attaques. La société civile locale qui déplore cette situation parle jusque-là d'un bilan provisoire. Samedi 13 juillet, dans les Maïndombe, plus de 50 personnes ont été tuées lors d'une incursion de la milice Mobondo au village Kinsele, situé sur la route nationale numéro 17 à la limite entre Kinshasa et cette province. Et à Ituri, au moins 26 personnes sont mortes au cours de l'attaque des miliciens de la Codeco le même samedi 13 juillet au centre des négoces de Pluto, territoire de Djougou. Josaphat Moussamba, vous avez souhaité nous parler de la politique contre-insurrectionnelle, les mobilisations armées dans l'est et ouest de la RDC, cas des provinces de l'Ituri, nord et sud Kivu, ainsi que dans les Maïndombe. On vous écoute.
Merci beaucoup. Je voudrais commencer par parler de la politique contre-insurrectionnelle. Et c'est en fait de quoi qu'il s'agit. C'est le tableau que vous venez de peindre hein, dans l'est du Congo et aussi à l'ouest. Je ne voudrais pas rester toujours dans l'est du Congo. C'est que c'est les mobilisations armées, c'est-à-dire que la naissance ou l'apparition de groupes armés, des groupes d'autodéfense locale, sur fond de plusieurs revendications, sur fond de plusieurs discours de légitimation, et à la base de ce qu'on appelle la politique contre-insurrectionnelle, c'est-à-dire que l'État, à travers ses forces de défense et sécurité, et y compris l'armée, la police et aussi l'Institut de défense civile, l'ANR et les autres, mettent en place une politique, mais aussi avec, si vous voulez, un acteur externe comme aujourd'hui, on parle de la MONUSCO, on parle de forces de maintien de la paix, mais généralement, ils participent dans ce qu'on appelle la politique contre-insurrectionnelle. Et donc, c'est vraiment une combinaison des politiques à la fois sécuritaires et aussi non sécuritaire ou bien armé et non armé pour pouvoir répondre à la résurgence ou l'émergence d'une insurrection. C'est le cas par exemple du M23 aujourd'hui qui a été défait mais qui est revenu en 2021. Mais avant M23, il a existé plusieurs rébellions, plusieurs groupes armés, que ce soit étrangers. Et donc comme vous venez de le dire, les ZDF Nalu. Au sud Kivu, vous avez des groupes armés burundais. Au nord Kivu et au sud Kivu, vous avez des groupes armés rwandais et qui sont restés pendant longtemps. Ça fait plus de 2 décennies ou 3. Certains contrôlent des espaces chez nous. Mais alors, comment on lutte pour récupérer et contrôler encore ces espaces-là, les administrer? Parce que parfois, ces espaces, ces villages, ces groupements échappent au contrôle de l'État. Oui, je vous écoute.
Oui, justement, comment vous jugez l'approche qu'a toujours utilisé le gouvernement congolais pour tant soit peu gérer toutes ces crises?
Alors, moi, je ne... Mais le gouvernement a une approche militariste. Et donc, à travers le monde, on a vu comment, lorsque des rébellions émergent comme ça, c'est la force militaire, hein, on mobilise les forces armées terrestres, navales, etc., pour traquer ou alors recontrôler les espaces qu'ils ont perdus. Par contre, les mobilisations armées, que ce soit dans l'est du Congo, tout comme ce qu'on voit maintenant dans le Maïndombe, vous avez parlé des Kwamouth, vous avez parlé des milices Mobondo, il faut vous rappeler que déjà, ils s'enquistent dans l'environnement sécuritaire local. Et il y a cet aspect de l'ancrage social ou tribal de la mobilisation armée. C'est-à-dire que le groupe armé naît des revendications de larges parties de la population. Et où parfois l'armée est contestée. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une guerre civile, comme je le disais. Donc l'État a utilisé plusieurs fois. D'abord, le force armée. Il y a eu, au moment où l'État est venu avec les approches non militaires, c'est-à-dire le PDDRSS, parce que vous avez suivi comment le PDDRSS avait pour fonction aussi de resécuriser ces espaces où le groupe armé était créé. Et les acteurs du monde global, c'est-à-dire que les humanitaires, que ce soit les diplomates, veulent que la mise en place d'un programme de démobilisation puisse faire à ce que des anciens combattants vont venir. Mais ce qui est important est que les modèles mis en place par l'État congolais, non seulement la force militaire, mais aussi ces programmes, a eu des effets, mais aussi des limites. Comme on peut le voir, en Ituri, c'est sûr qu'au fil des affrontements, il y a des miliciens, que ce soit des Codeco, ou ce que vous avez parlé de Pluto, parce que j'ai été à Pluto il y a quelques années, je suis allé travailler, faire des recherches là-bas. C'est-à-dire que pendant les opérations, on les traque, certains se rendent, on les amène dans le programme où ils sont arrêtés. Ou alors, d'autres viennent dans le programme, ils démobilisent d'eux-mêmes, ils redeviennent des civils. Par contre, aujourd'hui, ça devient très compliqué parce que la méthode de l'État, telle qu'on l'a connue, elle ne fonctionne pas pour la simple raison que tous les groupes armés, que ce soit des Sud Kivu, Nord Kivu, en Ituri, mis à part le Codeco, tout comme aussi pour le Mobondo, qu'on voit dans l'Ouest, d'ailleurs, le Mobondo, certains ont été, ils ont rejoint l'État, on les a amenés à Kitona en 2023. L'État a essayé de remobiliser, pour moi c'est une remobilisation armée institutionnalisée, pour la simple raison qu'avec la résurgence du M23, le gouvernement créé la RAD va aussi encourager ces groupes, d'ailleurs ils sont en train de résister contre le M23, mais à la fin, si le M23 n'est plus là encore demain, comment est-ce qu'on va faire avec ces groupes armés? Pour autant que, avant la révolution du M23, il existait des programmes, des opérations militaires contre tous ces groupes armés, vous l'avez vous rappelez, mais subitement, elles sont suspendues. Merci. Et tout ce groupe devenu des amis et traque les autres. Ça pose problème. Ça, enfin, Guy Maté, je voulais dire une chose. Au-delà des moyens militaires, au-delà des services de sécurité qui fonctionnent, nous nous disons que nous n'avons pas de possibilité de pouvoir les contraindre, mais l'État devrait aller au-delà, rapprocher aussi des chercheurs pour participer dans la compréhension.
Merci.
De la complexité sur terrain de toute cette mobilisation-là.
Merci Madame Faïda Mwangilwa. Quand vous voyez ce nombre élevé des victimes de tous ces groupes armés, est-ce que vous pensez que la réponse que le gouvernement a jusque-là réservée à toutes ces exactions est proportionnelle à la menace?
Effectivement, ça, c'est un vrai problème et je pense que la réponse se trouve au niveau de la réforme du secteur de sécurité, parce que je ne pense pas que tous ces groupes armés pourront nous aider un jour à construire. Moi, je compte sur les FARDC. Je vois les FARDC, la police nationale congolaise, plus on évolue avec le processus de réforme en incluant toutes les parties prenantes. Moi, quand je vois les parties prenante. Je vois la population elle-même, les autorités communautaires, je vois les associations de la société civile et tout, aux côtés des institutions. Et parce que vers les années 2008, tu te rappelles, il y avait convocation par le gouvernement à l'époque de la conférence sur la paix. À ce moment-là, on comptait les groupes armés à 25. Mais aujourd'hui, lorsqu'on lit beaucoup de rapports, c'est au-delà des 150. Où est-ce qu'on va aller? Donc, cela veut dire qu'à un certain moment, il faut voir comment arrêter et comment encadrer tout cela. Ce sont nos enfants, comment les encadrer et les conduire dans un processus rassurant. Parce que quelqu'un s'est dit, je quitte ici, je dépose l'arme, mais voilà la réponse qui m'attend. Donc, il faut réussir tout ce processus de réforme. Et je crois que la division des réformes de la MONUSCO, et d'ailleurs au niveau des institutions, il y a un effort à ce niveau, mais ces efforts doivent être soutenus par l'ensemble de la communauté congolaise, l'ensemble des dirigeants congolais, même ceux-là qui sont en dehors des institutions, parce que nous ne pouvons pas avoir plusieurs armées, nous n'avons qu'une seule armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut vraiment faire en sorte que tout soit professionnel, et ce n'est qu'alors, bien sûr, et en y ajoutant d'autres programmes d'encadrement des jeunes, d'autres programmes de développement, de désenclavement de certains milieux. Nous sommes là, nous faisons face à plusieurs problèmes à la fois, mais moi je crois qu'il faut absolument, pour répondre à tout cela, définir un processus aussi inclusif de réforme des secteurs de sécurité, et que tout le monde... On ne peut pas ne pas être congolais et dire « moi, ça ne m'intéresse pas la sécurité ». Et tu dis par exemple « ce sont ceux qui sont dans les institutions qui échouent ». Lorsque nos forces armées échouent, c'est l'ensemble de notre pays qui échoue. Et je crois que nous devons en être conscients et continuer à y travailler, parce que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix.
Merci Cyril Kileba. Qu'est-ce que devrait faire le gouvernement congolais pour solutionner de manière convenable et durable toutes ces crises qui sévissent à travers le pays?
Bon, je crois que de façon globale, nous avons un problème des choix des non-politiques publiques. Et ces choix des politiques publiques, quasi inexistant dans la plupart des cas, nous amène des problèmes qui, à la longue, deviennent insolubles. Et dans ce domaine de la sécurité, et avec notamment plusieurs groupes armés, il me semble que les réponses que nous y donnons comme État sont le plus souvent des réponses à visée électoraliste, à visée politicienne. Nous ne donnons pas des réponses durables qui peuvent aller au-delà de nos ambitions comme dirigeants à un moment donné, comme responsables à un moment donné. J'en veux pour preuve, maintenant par exemple, tous en tonne des louanges pour programme de développement de 145 territoires. Mais est-ce que un programme comme celui-là, qui va engloutir beaucoup d'argent, est-ce que on lui a donné une dimension telle qu'elle peut devenir une réponse à ces problèmes? Ou bien on les fait de façon isolée dans chaque territoire, et on construit ceci, on construit cela pour contenter les territoires, mais est-ce que il est conçu comme un programme qui doit faire du pays un territoire d'ensemble? Je crois que aujourd'hui tous ces problèmes là se posent surtout au niveau de la jeunesse. Les jeunes du Kivu qui sont recrutés aussi bien par les terroristes du M23 que ceux qui sont dans les groupes patriotiques des Ouazalendo. Mais ils éprouvent le même problème que les jeunes de Kwamout qui sont dans les groupes Mobondo. Quelles sont les réponses nationales que nous y apportons de sorte que le programme que nous avons sur l'ensemble du territoire puisse être une réponse qui puisse faire du territoire, de notre territoire, un territoire fonctionnel? Parce que tout le problème, c'est que le territoire ne fonctionne pas. Si vous avez fait un petit programme de développement à Arou, comment le programme de développement à Kwamout peut aussi être une réponse aux jeunes de Arou? Mais les jeunes de Arou, ils arriveront à Kwamout quand? S'ils doivent seulement espérer un jour prendre l'avion qui lui-même ne peut pas transporter plus de monde que cela. Mais si on avait un territoire qui ferait que les gens puissent se mouvoir, même par route, par fleuve, et tout cela pouvait être aussi une réponse à nos difficultés actuelles. Merci. En termes de gestion de ces questions qui se posent à nos jeunes.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Roméo Juliette de Stino Las de la Chorale, et on revient juste après.
Julien. Histoire d'amour.
Voilà, c'était Roméo et Juliette, Destino Mubi, l'as de la chorale, ancien de Viva la Musica et qui évolue depuis plusieurs années en Europe. Je rappelle que nous avons dans cette émission Cyril Kileb, elle est journaliste et l'éditeur du journal Des Postes, paraissant à Kinshasa. Madame Faïda Mwangula, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Josaphat Moussamba, il est doctorant à l'université de Gand en Belgique, il est chercheur congolais basé au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Des frondeurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti présidentiel, ont destitué jeudi 18 juillet Augustin Kabuya de son poste de secrétaire général du parti. Il lui reproche d'accaparer les postes au sein du gouvernement à son profit, rapporte Adrien Kalenga, porte-parole de l'UDPS. Cette décision a été annoncée ce même jeudi à Kinshasa lors d'un point de presse organisé par l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ces frondeurs, parmi lesquels l'on compte les porte-parole du parti, le président du groupe Force du Progrès, le leader des jeunes, mais aussi 33 secrétaires nationaux, accusent Augustin Kabuya d'abus, de corruption, de gestion solitaire et personnalisée du parti ou encore de clientélisme. Des sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées, l'absence de vision figure parmi les griefs mis à charge d'Augustin Kabuya. L'ancien ministre de la Santé, Teni Longondo, mène la fronde contre le secrétaire général du parti présidentiel. Cyril Kileba, vous avez opté pour ce sujet et on rappelle qu'à la une de votre journal des postes, dans son édition du 17 juillet dernier, vous avez titré ceci, vous dites « Crise à l'UDPS, un enjeu futur entre épicuriens et philosophes du pouvoir ». On vous écoute.
Oui, la crise à l'UDPS, elle nous tient en haleine depuis quasiment maintenant 2 semaines. Et vous savez, l'UDPS, c'est le parti du président de la République. Et donc à ce titre-là, ce qui s'y passe intéresse grand monde dans le pays. Bon, mais moi, je vais essayer de dédramatiser d'abord le sujet. Une crise au sein d'un parti politique, surtout dans les partis politiques congolais, c'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Depuis que les partis sont revenus sur la scène en 90, nous sommes habitués à ces genres de crises et c'est pas la première du genre au sein de l'UDPS. Mais maintenant, la particularité de cette crise aujourd'hui, c'est que généralement, c'est des crises que l'on observe dans les partis d'opposition. Mais là, c'est dans le parti même du président de la République qu'on observe cette crise. C'est pour cela que cela devient intéressant.
Justement, Cyril Kileba, il faut préciser que cette crise qui déchire l'UDPS ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On sait que c'est depuis que le président Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir en 2019 et que 2 camps se sont, n'est-ce pas, constitués au sein de l'UDPS. Et à votre avis, quelle est la particularité de cette crise pour qu'on ne soit pas en mesure d'y mettre fin?
Bon, moi, j'ai pris 2 éléments. Je prends à la fois le fait qu'elle est dirigée ou elle est personnalisée contre l'individu Kabuya, et puis je prends aussi un peu les soucis déclarés de frondeurs. Leurs soucis déclarés, notamment, bon, il y en a plusieurs, mais je prends un seul aspect qui me paraît intéressant comme observateur de la vie politique, c'est comment il prépare l'après-pouvoir en 2028. C'est cela qui attire un peu mon attention. Je remarque que à l'UDPS, c'est comme dans tous les autres partis politiques. Dès qu'il y a une divergence, allez, on va directement à la rupture. Cela signifie qu'il y a un déficit criant de démocratie à l'intérieur de nos partis. Parce que en démocratie, les crises doivent arriver. Mais elles sont faites pour être dépassées. Mais ici, dès qu'il y a divergence, on va à la rupture. Ceux qui ont des choses à reprocher à Kabuya pensent que non, Kabuya doit être exclu de la direction du parti. Ils n'ont pas en tête l'idée que non, ils peuvent dépasser cette divergence-là. Et de l'autre côté, ceux qui soutiennent aussi Kabuya pensent que ceux qui l'accusent doivent être exclus. Ou ils sont exclus selon une expression très célèbre quand même à l'UDPS. Donc là, il y a un manque criant de démocratie à l'intérieur de nos partis. Et cela prouve que finalement, les gens, en réalité, viennent se rassembler dans un parti. Ils n'y adhèrent pas. Parce que pour adhérer, ils doivent avoir un socle idéologique auquel ils viennent adhérer. Mais en l'absence de ce socle idéologique, ils se sont rassemblés. Et du coup, au premier coup de feu, ils vont se disperser. Donc, je crois qu'ils gagneraient plutôt à poser le problème, certainement, en termes de ce qu'ils seront demain après le pouvoir. Sinon, la voie est toute ouverte pour l'UDPS de disparaître, comme le PPRD a disparu, comme le MPR a disparu après le pouvoir. Mais eux, ils ont quand même la particularité de n'avoir pas été un parti qui a commencé au pouvoir. Les autres, on pouvait comprendre, le MPR, le PPRD, c'est des partis qui ont commencé au pouvoir. Donc, quand le pouvoir disparaît, eux aussi disparaissent. Ça peut se comprendre. Mais l'UDPS a la particularité d'avoir commencé à l'opposition, mais de ce point de vue-là, elle aurait dû donner plutôt exemple en termes de gestion de conflits internes, en termes de gestion de divergences en interne. Mais on se rend compte que c'est un parti comme un autre qui n'a finalement pas de ressort démocratique à faire valoir.
Merci, Madame Faïda Mongilois. Est-il vraiment impossible de mettre fin à cette crise au sein de l'UDPS?
Impossible comme tel, non. Non. Mais sinon, Guy, c'est un problème de gestion des ambitions. C'est un problème de gestion des ambitions. J'étais avec M. Guy, nous tous membres du parti. On était là en train de manger notre chikwang. Et aujourd'hui, je vois Guy rouler carrosse et moi, je continue à marcher à pied. Toi, tu penses qu'il va t'aimer? Pas du tout. C'est un problème de gestion des ambitions. C'est un problème qui est difficile et surtout lorsque le développement ne suit pas l'intérêt public. Parce qu'ici, lorsque on est membre d'un parti, on doit se dire, je dois me conformer à la discipline du parti, mais à l'intérieur, il y a toujours moyen de faire des concertations. Mais ce que nous constatons, c'est de plus un problème. On voit une personne, on cherche à la criminaliser, on cherche à presque à l'exposer au public, comme pour dire, voilà tel, mais sinon, quel est le chef de parti politique, le secrétaire général, qui va rester? Mais sinon, d'autres qui ont commencé dans ce parti, je dois te dire, la force d'engagement politique, moi, Faïda, je l'ai tiré d'où? C'était l'UDPS. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'UDPS. Donc, vous pouvez crier, mais moi, je vous dis, nous avons gagné en quoi? En engagement. Mais beaucoup de gens qui sont arrivés ne voient pas l'engagement politique. Ils voient seulement tel est arrivé, pourquoi tel est arrivé de tel coin, venir et devenir entreprise, et devenir député. On va aux élections, d'autres gagnent, d'autres ne gagnent pas. Ça crée une certaine animosité en interne. Or, il y a moyen de réduire la tension et de voir plus comment le parti peut marquer l'ensemble des Congolais dans sa gouvernance, dans des réponses à apporter aux questions des populations, aux questions des citoyens qui ont cru à l'UDPS comme un parti d'opposition non armé. Voilà l'enjeu là où ça se situe, mais sinon, en interne, c'est possible de résoudre ce problème au niveau des concertations. Vous savez, quand on cherche à résoudre un conflit, il suffit d'appeler seulement quelqu'un, une personne. Vous voyez, dans tel groupe, il y a tel qui est le meneur. Tu peux prendre un téléphone, viens le soir, on parle. Vous parlez, c'est fini. C'est un problème de gestion des ambitions. Il y a aussi toute la crise socio-économique à laquelle nous faisons face. Et lorsqu'on se dit, je suis du parti au pouvoir et que je ne vois pas clair, ça crée des animosités pour rien, alors qu'il y a lieu de voir plutôt l'intérêt national au détriment de nos intérêts comme membres et tout.
Merci, Josaphat Moussamba. On va finir cette émission avec vous. Et à votre avis, à qui profiterait ces pourrissements, les pourrissements de cette situation au sein des DPS?
De prime abord, pour moi, ça va profiter à ces compétiteurs de Kabuya. Les compétiteurs de Kabuya, ceux qui veulent qu'ils partent, ceux qui veulent le remplacer. À ce que je sache, je ne serai pas d'accord avec Madame Faïda Mwangiroa, pour la simple raison, oui, je reconnais, il a été dans beaucoup de partis politiques, et puis les dynamiques internes au sein des partis politiques sont celles qu'elle a décrites. Cependant, nous avons suivi ensemble, Imate, qu'ils sont allés auprès de la maman du président de la République, il y a eu des réunions, Paul Chimbulo en a dit. Il y a eu des réunions, ils ont discuté, et voilà. Dire qu'il suffit d'une personne appelée, lorsque deux points de vue sont divergents, c'est pas tellement les dynamiques, la gestion des ambitions, la distribution des postes, oui, c'est une des raisons, parce qu'il y a beaucoup de combattants, que ce soit des élites ou alors ceux d'Iran, et qui critiquent un peu la gestion des Kabuya. Par contre, ce que le président de la République a déjà dit, parce qu'il reste président de la République, mais sur le plan politique, il agit toujours, hein. Il agit toujours. Il n'est pas, il ne peut pas se dire des UDPS, mais on sait où est son cœur. Ça, c'est une des choses. La deuxième, c'est que, pour moi, c'est les conséquences de ce qu'on appelle les Bukalenga Bwetu. J'ai écrit quelque chose, hein, il y a quelques années. Notre pouvoir. Bukalenga Bwetu, on les gère de manière à ce que j'ai vu que des femmes étaient en train de le maudire. Hein. Ça, c'est trop grave dans un parti politique. Alors, ce n'est pas seulement l'UDPS, hein. C'est aussi les autres partis politiques où ces questions grognent, que ce soit les questions de clientélisme au sein du parti politique. les phénomènes de patrimonialisme aussi à l'intérieur des partis politiques, et où les gestions de fonds qui rentrent elles sont mal gérées, ou alors les nominations, les propositions des amis, si vous voulez, des copines, etc. C'est des questions comme ça dans beaucoup de partis politiques au Congo, et avec la dynamique, ceux qui disent la politique est dynamique, ce que moi je conteste d'ailleurs, parce que le modèle politique du Congo, on ne va pas le repliquer, que ce soit en France ou en Belgique, c'est un modèle atypique, et donc, je pense plutôt que, est-ce que l'UDPS va pas imploser? Ils vont changer, il nous reste encore quelques années pour regarder ces régimes et les autres, où est-ce qu'ils nous amènent. Pour moi, c'est difficile de le dire ici, parce que ce parti nous a nourri beaucoup d'espoir. Finalement, ce qu'on voit, ils reproduisent les mêmes pratiques qu'ils remettaient en cause à l'époque de l'ancien régime. Et ça fait dire que, est-ce qu'il y a cette culture de participation? Est-ce qu'il y a cette culture des changements au sein de l'UDPS? Je ne la vois pas.
Merci. Je ne la vois pas. Madame Faïda voudrait réagir à ce que vous avez dit.
Josaphat, je voudrais corriger une chose, cher ami. Faïda n'a jamais été dans beaucoup de partis. Mon jeune âge à l'université, j'ai milité pour l'IDPS et dans ma vie professionnelle pour les RCD. Et ça fait plus de 15 ans que je ne suis dans aucun parti. Ce qui m'intéresse, c'est le changement au niveau de la population, du peuple, parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir et c'est le peuple qui a encore le pouvoir de l'arracher. Moi, je crois en cela. On n'a pas beaucoup travaillé au niveau de peuple, mais par rapport à la crise au sein de l'UDPS, s'il faut l'appeler crise ou quoi, j'ai dit toujours une concertation permanente est plus souhaitée lorsqu'on a la gestion d'un parti politique.
Savoir écouter les autres.
Savoir écouter les autres.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Faïda Mwangula qui était avec nous au studio, merci beaucoup. Merci. Et merci à Cyril Kileba qui est intervenu en ligne, et M. Josaphat Moussamba. Merci également à Billy Landry Betou qui était à la technique, et avec la participation de Christian Lomombe, DJ Daddy et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Tokoma Bakamarad Pamba et de Franco Luambo Makiadi dans l'orchestre Ok Jazz. Et on se retrouve le samedi prochain.
Mi cola la casa, lo coma bacamara no fama, na mabale kila kala Soko mba kamara na pamba Mwasi na mabale kila kala
Soko monika na ye Ola andate mangungu pamba Soko monika na ye Ola andate mibale kila kala Hey mama,
so come on, baka malade pamba Imasi na mabale sila kala So come on, baka malade pamba Imasi na mabale sila kala
So come on, ingana ye Kolenga lenga pamba te So come on, ingana ye Volanda te li pale kupa kalaro Oh oh
To koma baka malade pamba Imasi na mabaye sila kala To koma baka malade pamba Imasi na mabaye sila kala
So adyo moni gana ye Volanda te mangungu pamba Sanke moni gana ye Kolanda te li bale si la kara e mama
Soko mama kamala na pamba Imasi na mabale si la kara Soko mama kamala na pamba Imasi na mabale si la kara
Soko moni gana ye Kotuna tuna pamba te Soko moni gana ye Holanda te li pale murakala wo Oh oh
Soko mama kamala na pamba Imasi na mabale si la kala Soko mama kamala na pamba Imasi na mabale si la kala
Soko moni gana ye Holanda te mungulu pamba Soke moni gana ye Holanda te mangungu pamba mama
Soko mama kamara na pamba Imasi na mabale si la kala Soko mama kamara na pamba Imasi na mabale si la kala
Soke moni gana ye Kolenga lenga pamba te Soko moni gana ye Kolanda te li pale si la kala Oh oh
Soko mama kamara na pamba Imasi na mabale si la kala Soko mama kamara na pamba Imasi na mabale si la kala